Nous sommes heureux d'être dans la maison du Seigneur parce que le Seigneur est présent au milieu de nous. Son regard s'abaisse sur nous. Il nous aime tous. Il veut nous bénir tous. Et parce qu'il nous aime tous et qu'il nous bénit tous, il veut nous sauver tous, sans exception. Comme on a entendu dans la lecture tout à l'heure, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Cherchez-le tandis qu'il est prêt. Un jour viendra où on ne le trouvera plus, même si on le cherche de tout notre cœur. Pour ce matin, je vous invite à ouvrir votre Bible au psaume 23. Au psaume de David, le psaume 23. Nous voulons lire le psaume 23. L'Éternel est mon berger. Si quelqu'un le sait par cœur, vous pouvez le dire dans votre cœur ou dans votre tête, sans ouvrir la Bible. Vous pouvez. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de pas grand-chose, de rien. Il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts. Il me dirige près d'une eau paisible. Il me redonne des forces où il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal car tu es avec moi. Ta conduite et ton appui, voilà ce qui me réconforte. Tu dresses une table devant moi en face de mes adversaires. Tu verses de l'huile sur ma tête et tu fais déborder ma coupe. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et je reviendrai dans la maison de l'Éternel où j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Le titre de notre prédication, vous l'avez deviné, l'Éternel est mon berger. Et j'aimerais partager avec vous quelques pensées sur le thème suivant, le voyage du pèlerin. Le voyage du pèlerin. En guise d'avant-propos, j'aimerais faire avec vous un survol de ce psaume avant d'entrer dans le vif du sujet. Ce psaume magnifique est un des plus connus de la Bible. Il émerveille le lecteur par sa simplicité et par sa profondeur. Dans ces quelques versets, le psalmiste, le roi David en l'occurrence, retrace dans un langage champêtre et familier toute la vie du pèlerin qui voyage sous la houlette du bon berger. Dès le départ, le voyageur est conscient d'être la brebis du Seigneur. De plus, il affirme que le berger veillera sur lui, de telle façon qu'il ne manquera de rien durant le voyage. Son âme sera pleinement restaurée à tout point de vue. De plus, le pèlerin sera guidé, protégé de tout mal et richement béni dans la communion avec son divin berger jusqu'à la fin de son pèlerinage. Alors, il entrera et habitera dans la maison de Dieu et y restera pour 15 jours. Et il restera pour l'éternité. Ce psaume si beau proclame Dieu comme le seul et unique bon berger. Berger qui n'a pas son pareil, dont l'amour est ce qu'il y a de plus merveilleux. La puissance incomparable du berger sauve ses brebis et les conduit à coup sûr dans la bergerie divine. Là, la restauration sera complète et le repos sera éternellement parfait et le bonheur sans aucun nuage. D'ailleurs, le fait de proclamer la grandeur infinie de notre bon berger à nous-mêmes ou à ceux qui nous écoutent nous donne de l'assurance quant à notre salut et réconforte notre âme par notre propre témoignage. Alors, si quelqu'un a des témoignages ou un témoignage, nous ne devrions pas hésiter. Cela encourage toute l'assemblée. Ce psaume, si bienfaisant et si réconfortant, est un psaume exceptionnellement court, mais extraordinairement riche. En effet, dans ces quelques versets, le psalmiste résume toute la vie chrétienne du début à la fin. Depuis l'instauration de sa relation avec Dieu jusqu'à son entrée dans la maison de l'Éternel pour toujours. Ce parcours du croyant fidèle, il le résume en six mots-clés. À savoir, dans l'introduction, il parle d'instauration, puis dans le corps du texte, de restauration, de direction, de protection, de communion, et enfin dans la conclusion, il parle de bénédiction éternelle. Si quelqu'un m'avait demandé de résumer la vie chrétienne en six versets, que l'on peut récapituler en six mots-clés, je n'y serais jamais arrivé. Il m'aurait fallu des pages et des pages et encore des pages. Mais ici, David, dans ce psaume, condense la vie du pèlerin en six strophes. C'est la preuve qu'il était bel et bien inspiré par le Seigneur. Ce n'est certainement pas pour rien que les paroles de ce cantique ont été mises en musique à de nombreuses reprises. Ah oui, il faut le dire et le redire. Ce psaume est sans pareil. Il est comme un des plus beaux chants que peuvent chanter les élus. Ses paroles sont sublimes. Son message est une mélodie céleste. Son harmonie est comme une symphonie angélique dont les accords sont si merveilleux qu'ils nous transportent instantanément dans les tabernacles éternels. Là, dans les cieux des cieux, par la foi et par l'esprit, recueillis au pied du trône de la grâce, nous disons à Jésus, notre bon berger, notre infinie reconnaissance, notre louange et notre adoration pour le fait qu'il est venu nous chercher, nous des brebis perdues à jamais, pour faire de nous le troupeau de son pâturage, un peuple qui lui appartienne pour l'éternité et qui est zélé pour les bonnes œuvres. Dans son introduction, David affirme deux choses importantes. La réalité de sa relation avec le divin berger et les conséquences qui en résultent. En quelque sorte, cette introduction est une véritable confession de foi. Il confesse sa foi en Dieu en étant entièrement convaincu de ce qu'il affirme. Et qu'affirme-t-il ? L'Éternel est mon berger. Un point, un trait. Car il ne dit pas « L'Éternel est un berger » ou il ne dit pas même « L'Éternel est un bon berger ». Mais il dit d'un seul trait « L'Éternel, voulons-nous le dire ensemble ?« L'Éternel est mon berger. » Et remarquons qu'il ne dit pas « Je suis la brebis de l'Éternel ». Mais il affirme de toutes ses forces « L'Éternel est mon berger ». Et il ajoute aussitôt avec la même conviction « Je ne manquerai de rien ». Et puis, il énumère tout ce que l'Éternel, son berger, lui donne avec abondance. « Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » Dans cette première énumération, nous constatons que David parle à la troisième personne du singulier. Il me donne le repos et la paix. Il restaure mon âme et il me conduit selon sa justice. Et puis, dans la suite de son énumération, il utilise une autre forme verbale. La première et la deuxième personne du singulier. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Sous-entendu de quoi ? De joie, mais oui, Suzanne. Et il conclut en affirmant et en confirmant ce qu'il disait, ou plutôt ce qu'il sous-entendait déjà dans l'introduction, oui. C'est un vrai oui. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Que peut bien signifier ce changement dans la manière d'exprimer sa foi entre le « il », le « je » et le « tu » ? Il me semble que cela explique le fait qu'il y a deux temps ou deux aspects dans la vie du pèlerin. Premièrement, c'est l'Éternel qui appelle sa brebis, la sauve, lui donne le repos et la paix de l'âme par la restauration spirituelle. Et cela selon l'immensité de sa grâce, de la grâce divine en vertu de l'amour de Dieu pour la brebis perdue. Et l'évangile de Jean reprendra ce thème, et Luc 15 également. Deuxièmement, une fois que la relation est restaurée entre le bon berger et sa brebis, le psalmiste, plein de confiance, exprime la réalité de sa communion intime et profonde avec le berger. Alors, il proclame de tout son cœur les conséquences salutaires de cette relation nouvelle, ainsi que les bénédictions infinies dont elle est suivie, malgré les difficultés et les adversités. Il y a donc, et c'est primordial, l'intervention de Dieu dans le cœur de l'homme qui, selon la grâce qui lui est faite, de la part de Dieu bien sûr, en vue du salut de son âme, devient la brebis du berger, du bon berger. Ensuite, cette intervention divine rend la brebis capable de répondre à l'appel du berger de tout son cœur, c'est-à-dire de toute son âme, de toute sa force et de toute sa pensée. Et dans quel but ? Afin de suivre son sauveur, envers et contre tout, dans le voyage de la vie, sous sa direction et sous sa protection, jusqu'au jour où elle entrera dans la bergerie céleste pour l'éternité. Ce qui est intéressant et instructif pour nous, c'est que, du début à la fin, ce psaume tellement affirmatif nous fait réfléchir à la raison pour laquelle le psalmiste peut parler d'une manière si positive est si effectif. Dans ce psaume, David n'exprime pas le moindre doute ou la moindre hésitation, malgré le fait qu'il mentionne également le passage dans la vallée de l'ombre et de la mort. N'est-ce pas intéressant? Si David peut parler de la sorte et chanter à l'Éternel un si beau cantique de louange et d'adoration, c'est parce que, je pense, qu'il connaissait son Dieu si intimement et si profondément que sa confiance en lui était réelle et naturelle comme la respiration de l'âme et inébranlable comme le rocher le plus solide. En effet, tout ce qu'il a expérimenté avec son Dieu dès sa jeunesse, en tant que berger du troupeau de son père, tout ce qu'il a vécu en fuyant Saül qui en voulait à sa vie, et tout ce qu'il a réalisé avec son Dieu depuis sa royauté jusqu'au jour où il a écrit ce cantique, tout cela a fondé sa foi, a fondé et façonné sa foi. C'est pourquoi il savait avec une certitude absolue que l'Éternel accomplit toujours sa parole, comme on l'a entendu dans la lecture ce matin. Non seulement il exécute ce qu'il dit, mais il agit toujours en faveur ou est pour le bien de ses serviteurs et de ses servantes, selon son plan d'amour pour chacune et chacun individuellement. Et Paul confirmera plus tard toutes choses. Il ne dit pas quelque chose. Toutes choses concourent ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu ou encore au bien de ceux qui sont aimés de Dieu. Ce qui renforce cette pensée, c'est que David, en composant ce psaume, ne décrit pas son vécu de son point de vue de berger, mais de celui de Dieu. Car c'est l'Éternel qui est son berger. Et c'est grâce à lui qu'il ne manquera de rien. C'est-à-dire qu'il arrivera au but, à la maison de l'Éternel. C'est lui qui le fait reposer, qui lui donne la paix, qui le conduit, le protège. C'est encore lui qui le garde de tout mal, dans la vallée obscure. Et c'est lui enfin qui lui communique sa force, sa joie, et le bénit d'une bénédiction éternelle. Ah, mes chers amis, quel exemple! David était vraiment un homme de Dieu, hors du commun. C'était, dit l'Écriture, le chantre agréable d'Israël. Sa vie, sa confiance en Dieu, ses prières, ses cantiques, ses exploits accomplis au nom de l'Éternel démontrent d'une manière particulière la profondeur et la vigueur de sa foi en Dieu. Il a aussi commis de graves péchés. Mais là encore, il se confie en l'Éternel de tout son cœur. Avoue ses transgressions, implore le pardon de Dieu et le reçoit avec une reconnaissance infinie. Il vous suffit de relire le psaume 32 et le psaume 51. Dans ses moments les plus difficiles et les plus pénibles, il se remet consciemment et simplement à son Dieu, car il sait que sa miséricorde et sa bonté sont éternelles, ainsi que sa fidélité. Bien entendu, chers amis, que sa vocation première de berger a grandement influencé ce magnifique cantique. David savait pertinemment bien quelle relation pouvait s'établir entre le berger et sa brebis et entre la brebis et son berger. Il connaissait mieux que quiconque à quel point la brebis était un animal dépendant qui ne peut rien du tout sans son berger. Elle nécessite des soins constants, elle a toujours besoin d'être conduite sur le bon chemin, dans les verts pâturages, et d'être gardée de tout danger, tellement elle est dépourvue d'autonomie naturelle. Un berger de ce monde disait un jour que le mouton, c'est l'animal le plus bête qui existe. Et Jésus dira « Heureux les pauvres hein ?» En esprit, car le royaume des cieux est à eux. Il ne s'agit pas de bêtises, il s'agit d'être dépendant de Dieu, comme la brebis. Ainsi, David a compris que les enfants du Seigneur sont comme des brebis, totalement dépendants de leur divin berger, en tout, partout et en tout temps. Car sans lui, nous ne pouvons presque rien faire. Rien faire. Et plus tard, Jésus confirmera dans Luc 15, « Sans moi, vous ne pouvez... » Exactement. Voilà pourquoi, comme nous venons de le mentionner, c'est le bon berger qui fait de nous les brebis de son pâturage, le troupeau qu'il conduit, instruit, protège et bénit pour notre bonheur éternel. Et cela par grâce, à cause de son incommensurable amour pour nous. Ce survol était un peu long, mais je voulais un petit peu, comment dire, témoigner de ce qui est dit dans ce psaume. Mais maintenant, reprenons les mots-clés tour à tour. Premier mot-clé, instauration. Dans son introduction, David donc confesse son salut de brebis de l'Éternel, son divin berger, et affirme sans hésiter qu'il ne manquera de rien. Et pourquoi ? Pourquoi peut-il affirmer sans une once d'hésitation « Je ne manquerai de rien » ? Parce que si l'Éternel est son berger, il n'est pas possible, je répète, il n'est pas possible qu'il en soit autrement. S'il en était autrement, Dieu serait un, exactement, menteur. En effet, si Dieu fait d'un enfant des hommes sa brebis, ce n'est pas pour la perdre en chemin ou pour la laisser se faire dévorer par le loup. C'est pourquoi David dit « Ta houlette est en... » « Bâton me rassure, la houlette c'est la direction, le bâton c'est la protection contre les dangers, contre les animaux sauvages, le lion, l'ours, le loup. » Un jour dans une réunion, un évangéliste disait « Il y a la houlette et puis le bâton pour taper les brebis quand elles vont dans un chemin de travers. » Mais c'est pas vrai. Un berger a dit qui s'y connaît, a dit il prend la houlette et quand une brebis veut s'égarer, il prend sa houlette qui a comme un rond au bout et il tire les pattes de la brebis pour la ramener dans le. Alors une grand-maman dans l'assemblée disait à l'évangéliste, mais non mon frère, le bâton c'est pour les loups, pas pour les brebis. Pas de bâton pour les brebis, mes chers amis. Jamais, jamais, jamais. En effet, si Dieu fait d'un enfant des hommes sa brebis, ce n'est pas pour la perdre en chemin ou pour la laisser se faire dévorer par le loup, mais bien plutôt pour la restaurer, la conduire ici-bas dans les chemins de la justice divine et l'amener dans la maison de l'Éternel pour toujours. Tel est le but de Dieu, ou de Jésus, notre divin berger, quand il va chercher sa brebis perdue. Il la met sur ses épaules et la ramène avec joie à la maison. Ainsi, il y a plus de joie au ciel pour une seule brebis qui a été retrouvée que pour 99 autres qui ne pensent pas avoir besoin de repentance. Hein. Pensez aux pharisiens. Merci Seigneur de ce que je ne suis pas comme... Relisez Luc 15. C'est ici que nous arrivons au premier point de l'instauration. Et ce premier point s'intitule « Relation ». Nous le savons, par nature, tous les hommes sont loin de Dieu, égarés dans la voie du péché et de la mort. Comment David est entré en relation avec l'Éternel, son Dieu ? La Bible ne nous le dit pas. Mais elle déclare qu'il était un homme, qui le sait ? Comment ? Un homme selon le cœur de Dieu. C'est-à-dire un homme croyant, aimant Dieu de tout son cœur, obéissant au commandement divin, mettant en pratique la loi dans ses prescriptions, toujours prêt à faire la volonté de Dieu en toutes circonstances. Il suffit d'ailleurs de relire son histoire dans les livres de Samuel le prophète pour s'en convaincre. Dieu lui-même rend un vibrant témoignage à son serviteur. Il n'a fait que ce qui est bien devant l'Éternel, sauf dans le cas d'Uri. David donc, étant devenu la brebis de l'Éternel, a vécu tout au long de sa vie bien remplie, rempli de joie, de peine, de douleur, de souffrance, d'adversité et de tribulation, dans une communion constante, constamment renouvelé et béni avec son bon berger. Relisez tous ces psaumes, relisez 1 et 2 Samuel et d'autres textes encore. Rappelons ici que ce que Dieu demande, ce n'est pas une religion, quelle qu'elle soit, ni même un christianisme quelconque sans la foi qui sauve, évangélique ou non, mais une relation personnelle avec Dieu, instaurée dans notre cœur par Jésus lui-même, par l'intermédiaire du Saint-Esprit et de sa parole, et par le moyen de la foi. Et c'est ici la nouvelle naissance que nous trouvons dans Jean 3 ou dans Romains 6 au début. Et ceci nous amène à notre deuxième point de l'instauration, et ce sera notre dernier point. Le premier point de l'instauration, c'était relation. Et le deuxième point de l'instauration, c'est rétribution ou conviction. Ce que Dieu donne. Une fois que la relation avec notre Dieu est rétablie par le sang de la croix et par la nouvelle naissance, Dieu nous rétribue, nous accorde toutes ses bénédictions. Et dans l'Épître aux Éphésiens que Claude a lu tout à l'heure, il est dit « Rendez gloire au Père de ce qu'il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. » Donc, premier point de son introduction, relation, et maintenant rétribution. Parce qu'il connaissait son Dieu, et parce qu'il entretenait avec lui une relation vitale et permanente, David pouvait dire « Oh là là, quelle vie ! Oh Seigneur !» Il a bien pleuré une fois. « Jusqu'à quand, disait-il, Seigneur, viendras-tu me secourir ?» Mais il savait que le secours de Dieu vient toujours. Parce qu'il connaissait son Dieu et parce qu'il entretenait avec lui une relation vitale et permanente, David pouvait dire « Je ne manquerai de rien. » Non pas d'abord sur le plan matériel, mais avant tout et par-dessus tout, sur le plan spirituel. En effet, c'est son âme que Dieu restaure. Et toutes les bénédictions promises sont spirituelles et éternelles. Si cette affirmation concernait l'aspect matériel ou corporel de la vie du croyant, alors elle ne serait pas vraie. Car combien d'hommes et de femmes de foi ont manqué de ces choses les plus élémentaires au cours de leur pèlerinage, comme aujourd'hui d'ailleurs. Et que dire à tous les chrétiens qui lisent ce psaume en pleurant? Oui, en pleurant. Parce qu'ils manquent de tout. Et je vais lire un passage dans Hébreux 11. Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leurs maladies, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection, d'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres encore subirent des moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés. On dit qu'Ésaïe a été scié dans le creux d'un arbre sous l'ordre d'Akab ou de son fils. Lapidés, sciés, torturés, ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent çà et là, vêtus de peau de brebis, vêtus de peau de chèvre, dénués de... Qui connaît le texte ? Dénués de tout ! Dénués de tout ! dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre, tous ceux-là à la foi desquels il a été rendu témoignage n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. C'est pourquoi Jésus est le seul qui est ressuscité d'entre les morts. À part Jésus, personne n'est encore ressuscité d'entre les morts avec un nouveau corps. Seulement quand Jésus reviendra, tous les croyants de tous les temps ressusciteront ensemble. Et nous serons pour toujours avec Jésus, pour toujours. Pour toujours. Bien sûr que Dieu accorde aussi d'abondantes bénédictions matérielles à ses enfants, mais cela n'est pas une promesse absolue. Les bénédictions spirituelles liées à notre appel et à notre statut de brebis du Seigneur sont des grâces promises et garanties, même avec un serment. Genèse 22, je le jure, parce que tu as fait cela, je te bénirai. En vue de notre arrivée dans la patrie céleste, les bénédictions matérielles et corporelles sont également une grâce, mais elles ne sont ni promises ni garanties, mais accordées selon le plan d'amour de Dieu pour notre vie. C'est pourquoi il y en a qui sont jamais malades, des autres qui sont toujours malades, des uns qui sont pauvres, des autres qui sont riches. Mais tous ceux-là qui ont la foi, qu'ils aient fait des exploits ou qu'ils aient été exposés au tourment, sont des héros de la foi, les uns comme les autres. Ainsi donc, David était convaincu qu'il ne manquerait de rien, spirituellement parlant. C'est-à-dire qu'il était persuadé que Dieu lui donnerait tout ce qui est utile et nécessaire pour l'éduquer et le former à son image, tout au long de son pèlerinage terrestre, afin qu'il arrive au but. Et Pierre confirmera, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Non seulement nous a donné, elle nous donne encore et toujours tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Je termine avec un exemple de David. Vous me permettez? Il est fort probable donc que David s'est tourné vers Dieu dès son jeune âge pour lui remettre sa vie entièrement, je dis bien entièrement, et laisser l'Éternel conduire sa destinée du début à la fin. Je vous avoue, mes chers amis, à cause de la préparation de ce psaume, j'ai relu les deux livres de Samuel pour m'imprégner à nouveau de cette extraordinaire histoire de David. Oh, il n'est pas le seul, hein? Il y en a beaucoup. Samson, il a aussi une histoire extraordinaire, bien entendu. Et vous savez pourquoi Samson me fait plaisir, me fait de la joie? Parce que si Dieu a pu garder Samson, il peut aussi me garder, moi. Vous comprenez? Parce que moi, je ne suis pas un David, hein? Je ne sais pas, peut-être parmi vous, il y en a qui disent, oh, moi, je suis encore plus grand que David. Moi, je suis tout petit, dans mes petits souliers à côté de David. Mais par rapport à Samson, ça me va un peu mieux. Salut, Samson. Je n'ai pas parlé de toi, hein. David avait dès lors une attitude de soumission consciente et intelligente, avec le désir ardent de plaire à Dieu en toutes circonstances et de faire sa volonté pour la seule gloire de son Dieu, souverain, juste et compatissant. Et l'exemple que j'aimerais vous donner, c'est l'exemple de David quand il est tout jeune, de son combat contre Goliath. Cet épisode dans la vie de David, encore tout jeune, nous montre à quel point, à son âge déjà, écoutez bien, vraisemblablement entre 14 et 18, entre 15 et 18 ans, ou 14 et 18 ans. Car il avait 30 ans quand il est devenu roi, et depuis son onction jusqu'au jour où il est devenu roi, il a été poursuivi pendant 15 ans pendant Saül. Alors s'il avait 30 ans quand il est devenu roi, il avait environ 15 à 20 ans quand il a combattu Goliath. Mais j'ai réfléchi, je me suis dit, mais à 16 ans, Joseph, qu'est-ce que tu aurais fait devant un Goliath pareil? Moi, je serais parti en courant. Je serais parti en courant, j'aurais dit, Seigneur, débrouille-toi. Alors, je résume, hein, parce que sinon, on en aura encore pour un message. Je résume. Tout ce que David savait, il connaissait l'ennemi. Goliath, un homme de guerre dès sa jeunesse, un géant, un guerrier vaillant et invincible. Il connaissait sa tactique. Goliath laissait entendre que son défi n'est que temporel et que l'enjeu n'est qu'humain, terrestre, matériel. Mais en fait, dans sa dimension spirituelle, préfigurée par ce combat concret qui opposait Israël et les Philistins, ce défi était céleste, avec des conséquences éternelles, soit de vie, soit de mort. Car il s'agissait en fait de savoir de qui Israël serait l'esclave, de Dieu ou de l'ennemi, et de vouloir et de décider d'être esclave de Dieu en combattant en son nom. J'ai mis devant toi la vie et la mort, choisis la vie. C'est ça qu'Israël devait faire. Ils avaient tous la trouille, même Saül, le roi. Et ce gamin de 17 ans, il va combattre ce Goliath. Il connaissait Dieu, sa parole, ses commandements, sa volonté. Et quelle était sa volonté? Il savait très bien, David, à son âge, que Dieu ne voulait pas qu'Israël soit esclave de l'ennemi. Il connaissait sa fidélité envers ses promesses pour ceux qui lui obéissent. Il avait expérimenté la délivrance avec l'aide du Seigneur lorsqu'il était berger. Vous vous souvenez ce qu'il a dit à Saül? Il savait qu'il n'avait pas à lutter contre la chair et le sang. Il savait que seul l'épée de l'Éternel pouvait vaincre Goliath. D'ailleurs, on vient de le chanter, n'est-ce pas? Il nous entoure dans les combats. Et c'est lui qui tient l'épée, qui décide des combats. David le savait déjà. Il savait qu'il ne combattait pas en son nom, avec des moyens humains, mais au nom de l'Éternel et avec des moyens divins. Il savait d'avance, rendez-vous compte, il savait d'avance que Dieu donnerait la victoire, parce qu'il savait qu'il luttait non selon la chair, pour sa propre gloire, mais selon la volonté de Dieu et selon les règles divines, selon lesquelles la victoire et la gloire appartiennent au plus fort et au plus vaillant. Non, à Dieu, même s'il est le plus fort et le plus vaillant. Et pourquoi? Parce que ce n'est pas avec des armes charnelles qu'il combattait, mais avec des armes spirituelles, des paroles de Dieu connues, qu'il connaissait, assurées, assimilées dans son cœur, compétentes, absolument efficaces et infaillibles, car il en avait maintes fois l'expérience, même avant 20 ans. C'est la raison pour laquelle les pierres du torrent étaient polies, usées, éprouvé par l'emploi fréquent qu'en faisait David, qui connaissait son Dieu et qui savait comment lutter contre l'ennemi. D'ailleurs, même si David a peut-être un peu tremblé en lançant la pierre avec sa fronde, il savait qu'elle atteindrait le but, car c'était Dieu qui dirigeait sa main afin que le projectile frappe le géant au seul endroit où il était vulnérable. Il fallait avoir de la visette. Et l'Écriture elle-même nous dit que les frondeurs de l'armée de David, qui lançaient la pierre avec leur fronde de la main gauche, pouvaient viser un cheveu sur la tête de l'ennemi. Il faut y aller, en français courant. Quelle est la puissance de la parole de Dieu, comme on a entendu ce matin dans la louange, vivante, efficace, et qui accomplit toujours ce à quoi elle est destinée. Car Dieu dit, et sa parole agit. Un point, un trait. Et David trancha la tête de Goliath avec l'épée de son ennemi, car lui-même n'en avait point, puisqu'il n'avait qu'un bâton, sa fronde et 5 pierres polies. Et pourquoi 5? Pourquoi une ne suffisait pas, puisqu'il savait que Dieu donnerait la délivrance? parce que Goliath avait encore 4 frères. Et David s'est dit, aïe, 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 vous voyez à quel point il savait réfléchir? Si Goliath meurt, il y a les autres qui vont se venger, ils vont me tomber dessus. Alors il avait encore 4 pierres. Poum, 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 poum. Et savez-vous ce que dit l'histoire dans l'Écriture? Les hommes vaillants de David, dans son armée, 4 hommes vaillants, 4 différents hommes vaillants de l'armée de David ont tué chacun un frère de Goliath. Voilà. Alors je résume pour terminer. Par rapport au combat, il savait qu'il avait un défi à relever, un défi de mort ou de vie spirituelle. Et la question qui s'adresse à moi et à nous tous, est-ce que je suis prêt à relever ce défi jour après jour, ce défi de mort ou de vie spirituelle par la grâce de Dieu? J'ai mis devant toi la vie et la mort, choisis la vie. Devant chaque tentation, je suis appelé à choisir la vie et la mort. Par rapport à chaque épreuve, à chaque souffrance, je suis appelé à choisir la vie et non la mort. Par rapport aux armes, il savait qu'il avait une épée spirituelle à manier, la parole de Dieu et ses promesses infaillibles. Suis-je d'accord dans n'importe quelle situation, à l'exemple de David, de manier l'esprit, l'épée de l'esprit, en disant « Seigneur, je dis ta parole et c'est toi qui l'as fait agir, pas moi ». Mon devoir, c'est de dire la parole, de confesser son nom et de dire, il est écrit, je sais que c'est comme ça, je connais ta volonté, je sais ce que je dois faire et je veux le faire. Aide-moi. Et le Seigneur agit, car c'est lui qui produit en nous et le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Et dernièrement, par rapport à la victoire, il savait qu'il y avait une couronne céleste à remporter, la couronne de la vie éternel. Ah, mes chers amis, que voulons-nous? Voulons-nous aussi cette couronne de la vie éternelle? Alors, relevons le défi, combattons le bon combat de la foi et nous vaincrons. Et l'apôtre Paul pourra dire à la fin de sa vie, « Oh, Timothée, j'ai échoué sur toute la ligne. » Mais non! « Oh, Timothée, garde le bon dépôt. » J'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de vie me sera donnée, accordée. Et que dit le dernier livre de la Bible? Que dit le dernier livre de la Bible à propos de la couronne? Garde ta couronne afin que personne ne la prenne. Que Dieu nous bénisse tous, mes chers frères et sœurs. Bon dimanche, bonne continuation. Relisez l'histoire de David. Réfléchissez comment il a connu Dieu, comment il lui a fait confiance, comment il a combattu, alors même qu'on voulait le lapider, parce que tous ses biens, les femmes, les enfants, tout était parti. Il n'y avait plus rien, on voulait le lapider. Waouh, il en a vécu des choses. Même ses fils ont voulu se faire roi à sa place et le tuer. Ses fils. Dieu lui avait dit, parce que tu as commis ce péché. Enfin, l'exemple de David est pour moi quelque chose d'extraordinaire. Que Dieu m'aide, que Dieu nous aide à suivre cet exemple. Considérez les anciens qui sont morts et imitez leur foi. Amen.